Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. La vice-présidente de l'Argentine dénonce qu'elle ne se présentera pas aux élections de 2023 car elle est interdite. Le président argentin Alberto Fernández se rendra au Brésil pour l'investiture de Lula da Silva le 1er janvier. Attentat manqué au Brésil d'un partisan de Jair Bolsonaro. La vice-présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner a affirmé être victime de proscription. Et c'est la raison pour laquelle elle ne se présentera à aucun poste lors des élections de 2023. Devant ses supporters mardi, elle a précisé qu'il n'y avait ni démission ni auto-exclusion dans sa récente annonce concernant le processus électoral à venir. Il convient de rappeler qu'après avoir été condamnée pour corruption, la vice-présidente a assuré qu'elle ne serait candidate à rien. Selon Fernández de Kirchner, la condamnation à son encontre fait partie d'une opération de lawfare. Le président argentin Alberto Fernández se rendra au Brésil le 1er janvier pour assister à l'investiture de Lula da Silva. Dimanche, Lula entamera sa troisième présidence au Brésil après les deux mandats consécutifs entre 2003 et 2011. Au total, 17 chefs d'État et de gouvernement se rendront au Brésil pour l'investiture de Lula da Silva. Outre l'argentin Alberto Fernández, seront présents ses homologues d'Allemagne, d'Angola, de Bolivie, du Chili, de Colombie, d'Équateur, d'Espagne, du Paraguay, du Portugal et d'Uruguay, entre autres pays. Celui qui n'y assistera pas est le président sortant du Brésil, l'ultra-conservateur Jair Bolsonaro, qui sera aux États-Unis ce jour-là et séjournera dans la station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride, propriété de son ami, l'ancien président américain Donald Trump. Quelques jours après la prestation de serment, Lula effectuera son premier voyage officiel à l'étranger, en Argentine, pour assister au sommet de la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Cela marquera le retour du Brésil dans le groupe continental qu'il a quitté sur décision du président sortant. France 24 et RFI analysent les perspectives qui s'ouvrent pour le Brésil à partir de l'arrivée de Lula le 1er janvier.
Le changement de pouvoir se fait étape par étape au Brésil. Après avoir remporté l'élection le 30 octobre, puis montré son émotion lors de la cérémonie de certification des résultats le 12 décembre, Lula s'apprête à entrer officiellement en fonction le 1er janvier. Et il vient de nommer les 21 premiers ministres d'un gouvernement qui en comptera 37. Le président élu confie que former cette équipe gouvernementale est encore plus difficile que remporter l'élection et s'inquiète d'un énorme défi à venir.
Ce dont nous devons être conscients, c'est que nous avons vaincu Bolsonaro, mais que le bolsonarisme est dans les rues de ce pays, en colère et peu disposé à reconnaître sa défaite. Par conséquent, en plus de gouverner avec efficacité, avec compétence, nous devrons aussi vaincre le bolsonarisme dans les rues de ce pays.
Et pas de cadeau de Noël pour Lula. Le président élu assure s'apprêter à commencer son mandat avec des boulets aux pieds.
Après 4 ans de mandat, nous avons hérité d'un État en situation de pénurie, où les choses les plus simples n'ont pas été faites de manière responsable. Parce que le président Bolsonaro a préféré dire des mensonges au lieu de gouverner ce pays.
Son vice-président va jusqu'à parler d'un véritable démantèlement de l'État sous Bolsonaro, avec plus de 14 000 travaux arrêtés. La tâche qui les attend, selon eux, est herculéenne.
Au Brésil, les préparatifs se poursuivent pour l'investiture du président élu Lula. Il doit prendre ses fonctions le 1er janvier. Il s'agit notamment de s'assurer que l'événement ne soit pas perturbé par des actions violentes à Rio de la part de sympathisants du président sortant, Jair Bolsonaro.
Oui, exactement. Et c'est pour ça, hier, la police fédérale a lancé une vaste opération contre une centaine de personnes d'extrême droite. La justice les soupçonne de vouloir planifier des manifestations antidémocratiques. Plusieurs personnes, dont un journaliste, un pasteur et un conseiller municipal ont été arrêtés dans l'état d'Espírito Santo, qui se trouve dans le sud-est du pays, selon Carta Capital, des armes à feu et des munitions ont été saisies. Dans la ligne de mire des autorités se trouvent aussi des militants de Jair Bolsonaro qui publient des fake news sur les réseaux sociaux.
Et en attendant son investiture, Lula a participé hier à une soirée de Noël organisée à São Paulo pour les recycleurs de rue et les ramasseurs de déchets, qui sont souvent des personnes sans domicile fixe très précaires.
Exactement, et il leur a fait une promesse avec une certaine émotion dans la voix. On écoute Lula.
Non, serão vocês que terão que ir até o presidente da República. Sou eu. Sou eu, presidente da República.
Ce ne serait pas à vous d'aller voir le président de la République, mais ce sera à moi, président de la République, d'aller vers vous pour qu'on puisse enfin trouver une solution pour tous ceux qui vivent dans la rue, a déclaré Lula sous les applaudissements des catadores, des ramasseurs de déchets. Un discours qui, selon Folha de São Paulo, était aussi, Judith, une pique contre la mairie de São Paulo, dirigée par la droite. São Paulo est la ville la plus riche du Brésil. Franchement, la situation pourrait être bien meilleur, a ajouté Lula, président élu de gauche.
La prise de fonction approche au Brésil à quelques jours de son investiture. Lula, le président élu, nomme 16 ministres, Christophe.
Oui, le trombinoscope étant une de Correio Brasiliense C qui titre « Lula donne un visage au ministère, mais les alliés attendent ». De fait, explique Estado de Minas, le président élu a consolidé hier les espaces du Parti des Travailleurs et des partis de gauche, qui étaient ses alliés au premier tour. Il reste maintenant à annoncer les ministres qui donneront au gouvernement une coloration de centre-gauche, intégrant ceux qui l'ont soutenu au second tour. Il reste encore 13 ministres à trouver, et si cela prend du temps, selon Estadão de São Paulo, c'est en raison des affrontements politiques. Or, ainsi Estado de Minas, un gouvernement comptant 37 ministères ne peut réussir qu'avec beaucoup de coopération et une bonne coordination, car la plupart des grands problèmes du pays nécessitent des solutions interdisciplinaires.
En matière de diversité, Christophe, qu'en est-il dans ces nominations?
Eh bien, les activistes saluent la diversité des ministères de Lula, titre Folha de São Paulo, avec les nominations de 6 femmes, dont 3 sont noires, et de 4 autres hommes noirs, une présence déjà bien supérieure à l'ensemble des nominations de Jair Bolsonaro, son prédécesseur. Activistes et politiciens demandent qu'ils disposent de budgets adéquats pour ne pas devenir des figurantes de la diversité. Par contre, pour l'éditorialiste de Estadão de São Paulo, c'est zéro pointé. Lula a eu l'occasion d'assembler un ministère pluriel et il l'a rejeté. Il a frustré ceux qui attendaient une diversité, non seulement de genre et de race, mais aussi d'idées.
Cette semaine, un homme a été arrêté au Brésil pour avoir tenté de faire exploser un camion de carburant près de l'aéroport de la capitale, Brasilia, afin d'empêcher Lula d'accéder à sa troisième présidence le 1er janvier. La police l'a identifié comme étant Jorge Washington de Oliveira Souza, un partisan de Bolsonaro, et l'a accusé de vouloir provoquer le chaos afin que les forces armées prennent le pouvoir.
À en croire à la presse ce matin, Marion, la capitale Brasilia a échappé de peu à un attentat. George Washington de Oliveira Souza, propriétaire d'une station-service dans l'état de Pará et âgé de 54 ans, avait placé des explosifs dans un camion-citerne près de l'aéroport international, explique au Globo. Le chauffeur du camion avait remarqué l'engin et alerté la police. Les forces de l'ordre ont ensuite arrêté Oliveira Souza dans un appartement qu'il louait depuis le second tour de la présidentielle. Les policiers y ont trouvé des explosifs, des armes de gros calibre et une quantité incroyable de munitions. Le suspect a déclaré d'avoir voulu créer du chaos pour provoquer une intervention de l'armée et empêcher ainsi le retour du communisme au pouvoir, en référence bien sûr à l'investiture du président élu de gauche Lula da Silva, écrit Correio Brasiliense. De quoi alarmer l'équipe de transition qui a ordonné l'arrestation d'une vingtaine de sympathisants de Jair Bolsonaro, rapporte de son côté la Folha de São Paulo. Les proches du nouveau président accuse certains membres de l'armée de connivence avec des extrémistes antidémocratiques. Depuis la défaite de leur champion, les bolsonaristes campent en effet devant les casernes brésiliennes.
Au Pérou, la détention de l'ancien président Pedro Castillo prolongée de 18 mois. La Cour suprême a décidé le 15 décembre de prolonger d'un an et demi la détention provisoire de Pedro Castillo, l'ancien président de gauche, destitué le 7 décembre. Ses soutiens continuent de manifester dans les rues et la répression a fait une dizaine de morts alors que le gouvernement a étendu l'état d'urgence à la totalité du territoire. Voici un rapport de RFI.
Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses
La Cour suprême a décidé de prolonger de 18 mois la détention provisoire de Pedro Castillo, ancien président de gauche, destitué la semaine dernière. Dans la rue, l'état d'urgence entré en vigueur hier n'a pas empêché les manifestants un peu partout dans le pays de se mobiliser. Au moins 7 personnes de plus sont mortes dans des échauffourées avec les forces de l'ordre. Quelques milliers de manifestants étaient aussi réunis dans la capitale. Reportage de Juliette Chénion à Lima.
Manifestation avec un dispositif de sécurité renforcé, des centaines de policiers, des véhicules blindés et des militaires armes à feu en bandoulière dans le centre-ville de Lima. Un dispositif incompréhensible pour les manifestants.
L'armée est de sortie, on vient de voir un petit tank. La police nationale est sortie, il ne manque plus que les forces armées. Nous venons nous-mêmes, nous ne sommes pas des terroristes.
Ces manifestants réclament la même chose depuis une semaine.
Liberté pour Pedro Castillo, dissolution du Congrès et une nouvelle constitution.
Mais la libération de Pedro Castillo n'aura pas lieu. Détention provisoire d'un an et demi prononcée par la justice dans la soirée. L'ancien président est accusé de rébellion.
Il faut le libérer parce qu'ils n'ont aucune preuve contre lui. Ce ne sont que des on-dit.
Dans la rue, tous se disent prêts à manifester tant qu'il le faudra. Hier, plusieurs groupes ont fait le voyage depuis l'intérieur du Pérou, comme cet ancien membre d'un groupe dit d'autodéfense du centre du pays.
Nous sommes venus avec un objectif. Tant qu'il ne sera pas rempli, nous resterons là.
Pendant la manifestation, le Congrès, lui, a commencé les débats pour avancer les élections à décembre 2023 ou avril 2024. Juliette Chénion, Lima, RFI.
Bonjour Achim Lippold.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Ces manifestations et le maintien en détention provisoire de Pedro Castillo, c'est à la une, encore aujourd'hui, des médias péruviens.
Oui, la presse titre aussi sur la mise en place d'un couvre-feu dans 15 provinces du pays, selon El Comercio. Ce couvre-feu doit s'appliquer pendant 5 jours, une mesure soutenue par l'éditorialiste du journal Pérou 21. Le gouvernement de Dina Boluarte doit rétablir l'ordre interne et le principe d'autorité en renforçant les forces aux armées, écrit ce quotidien conservateur. El Comercio, un autre journal très anti-Castillo, partage cet avis. Un élément fondamental de la situation actuelle est l'exercice de l'autorité fondée sur le monopole de la répression que possède tout État contemporain. Et en ce sens, l'application de l'état d'urgence au niveau national est une sage décision, écrit El Comercio.
Ambiance toujours tendue au Pérou, on l'entend, hein, une semaine après la destitution et l'arrestation de Pedro Castillo. Les partisans de l'ex-président de gauche continuent de manifester, parfois violemment. De nombreuses routes restent encore bloquées. Si bien qu'hier, le gouvernement a décidé d'étendre l'état d'urgence à la totalité du territoire, Juliette Chénion.
L'état d'urgence a en effet été déclaré pour un mois et dans tout le pays, annonce du ministre de la Défense Alberto Otarola hier dans la matinée.
Par conséquent, la police nationale, appuyée par l'armée, va assurer le contrôle du territoire national, des biens et surtout des infrastructures stratégiques, ainsi que de la sécurité de tous les Péruviens.
Plusieurs régions dans le sud du Pérou étaient déjà concernées par la mesure. Cela a permis, par exemple, hier matin, de déployer des militaires dans la ville d'Arequipa. L'un des objectifs est de lever les blocages routiers. Il y en a plusieurs dizaines dans le pays, avec des passagers, des camions de marchandises coincés sur les routes depuis parfois plus de 4 jours. 3 aéroports, Arequipa, Cusco et Puno, restent aussi fermés aujourd'hui à cause d'intrusions de manifestants ces derniers jours. Dina Boluarte, la nouvelle présidente, a donc encore appelé au calme hier.
Pour nous mettre d'accord, il n'y a pas d'autre moyen que le dialogue.
Elle propose d'avancer les élections à décembre 2023 et non plus avril 2024, mais le projet de loi doit encore être approuvé par le Congrès. Juliette Chénion, Lima, RFI.
Et Pedro Castillo, lui, est toujours un détenu accusé de rébellion et de conspiration. Il doit être fixé sur son sort ce matin. En principe, une audience est prévue dans une petite vingtaine de minutes. Le parquet, je vous le rappelle, a requis 18 mois de détention provisoire. Bonjour Roman Perdomo.
Bonjour.
Doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal, vous réalisez une thèse sur le Pérou. Merci d'être en ligne avec nous du Canada pour nous éclairer sur cette situation péruvienne. Un éventuel placement en détention de Pedro Castillo, comme le demande le parquet. Est-ce que ça ne risque pas d'embraser un peu plus le pays? Est-ce qu'on doit interpréter bien justement l'extension de l'état d'urgence avec cette perspective?
Alors il y a en effet un risque qu'une mise en détention de Castillo, en fait, elle continue a alimenté les demandes des manifestants. Certains estiment voilà, que Pedro Castillo n'aurait pas droit à un procès juste en étant en détention. Et d'autres estiment qu'avec le départ du pouvoir de Castillo et une potentielle mise en détention, c'est leur vote qui est bafoué. Bon, en fait, voilà, le placement en détention peut exacerber un sentiment de collusion des élites nationales contre une certaine volonté populaire qui a élu Castillo. Et comme vous le disiez, voilà, l'état d'urgence a été décrété dans tout le pays. Parallèlement à cela, il vise essentiellement à faire intervenir en fait, la police et l'armée pour rétablir l'ordre et protéger les infrastructures stratégiques nationales. En fait, une telle décision elle risque aussi d'attiser la colère des manifestants qui se sentent déjà déconsidérés politiquement par rapport à la voie du dialogue qui semble indispensable à déployer.
Ces manifestants, ouais. Romain Perdomo, qui ils sont en fait ? Qui sont ceux qui veulent défendre et rétablir Pedro Castillo ?
Alors, ce sont essentiellement des personnes qui avaient voté pour Castillo en 2021, c'est-à-dire un électorat plutôt rural, pauvre et traditionnellement exclu de la politique nationale. Castillo, voilà, représentait une forme de nouveauté, un outsider de la politique péruvienne. Lui aussi issu d'une province rurale du Pérou et élu sur un programme de gauche radicale. Donc en fait, voilà, le départ de Castillo, il est vécu par ses électeurs comme une négation de leur vote en quelque sorte et de leurs droits politiques, d'autant qu'il a eu lieu après plusieurs tentatives de destitution de la part d'un parlement de droite hautement impopulaire. Voilà, un parlement qui dispose de moins de 20% d'approbation et qui est jugé corrompu et manipulé par les intérêts de l'élite nationale. Et ce parlement obstructionniste bloquait effectivement systématiquement les projets de loi de l'exécutif lorsque Castillo était au pouvoir.
Et ça veut dire donc, si je vous suis bien, qu'on a aujourd'hui deux Pérou en fait qui s'affrontent, deux Pérou tant géographiquement que socialement.
Exactement. En fait, le sud, c'est une des régions les plus secouées par les manifestations actuelles, en particulier la région andine. Et c'est historiquement en fait la zone qui a été la plus exclue du processus de construction nationale au Pérou. Qui s'est réalisé voilà, d'un point de vue politique, économique, depuis la capitale, Lima, sur la côte où réside l'élite nationale et blanche. Le Pérou, c'est donc un pays fortement centralisé. Et en contraste, voilà, le sud, comme je le disais, c'est une zone qui concentre des populations rurales, pauvres, amérindiennes, qui s'étaient reconnues dans le discours de Castillo.
Ce sont des populations qui ont voté pour Castillo, mais qui ont aussi voté pour Dina Boluarte. Elle faisait partie du ticket présidentiel au moment de l'élection, vice-présidente. Elle est devenue aujourd'hui présidente. Et pourtant, ces manifestants, aujourd'hui, ils l'appellent à la démission. Pourquoi cela ?
Alors voilà, on lui reproche essentiellement d'avoir trahi Pedro Castillo et de s'être allié aux parlementaires. Alors d'une part, voilà, on la soupçonne d'avoir préparé le terrain pour la succession de Castillo, comme c'était la vice-présidente. Et d'autre part, elle a nommé depuis la semaine dernière un gouvernement de technocrates en renouant le dialogue politique avec un parlement, comme je le disais, hautement délégitimé dans l'opinion publique. Et en fait, voilà, les manifestations actuelles expriment un ras-le-bol généralisé contre une classe politique perçue comme alliée dans la corruption, exécutif et législatif confondus.
On l'entendait, Juliette Chénion, notre correspondante, le disait dans son reportage. Elle a annoncé hier la possibilité d'élections anticipées, non pas en 2024 comme elle l'avait déjà fait, mais dès décembre 2023. Dans un an, est-ce qu'il faut y voir là une tentative désespérée de sa part ou ça peut changer quelque chose, cette annonce ?
Alors, il faut savoir voilà, qu'elle est sous pression des manifestants qui ont des demandes éclatées. Donc, il réclame son départ, d'autres demandent une dissolution du Parlement, d'autres encore de nouvelles élections, voire la convocation d'une assemblée constituante. Et dans ce contexte, elle est forcée de répondre à la pression de la rue, mais cela doit être réalisé à l'aune de différents arbitrages. D'une part, l'organisation d'une élection qui prend au minimum un an voilà, au Pérou. D'autre part, les tractations avec le Parlement, parce qu'en fait, c'est le Parlement qui doit réaliser un amendement à la Constitution pour changer la date du vote. Voilà, la droite préférerait une élection en 2024, la gauche a priori en 2023 face à la pression de la rue. Et enfin, le dernier élément, c'est que cet arbitrage doit se réaliser à l'aune d'une potentielle réforme politique préalable aux élections qui serait à même de faire sortir le pays de l'instabilité.
Mais une réforme politique qu'elle devrait engager dès maintenant, c'est une des possibilités pour elle pour essayer de se maintenir au pouvoir encore avant ces élections ?
C'est ça. Il y a différentes voies possibles. D'une part, la voie du dialogue politique que j'évoquais tout à l'heure. D'autre part, la voie de la réforme politique qui semble assez urgente. Et en ce sens, il y a une partie des manifestants qui demandent la convocation d'une assemblée constituante. Voilà, c'est un projet qui était porté par Pedro Castillo. Et c'est seulement voilà, après l'implication des citoyens dans les processus politiques et une remise en ordre de l'État qu'il sera possible d'envisager de mettre en place des politiques de changement qui puissent contribuer à résoudre les contradictions de la société péruvienne que nous avons évoquées à l'instant.
Une partie de la presse qui est très hostile à toutes ces manifestations affirme qu'il y a des membres de l'ancienne guérilla maoïste du Sentier Lumineux qui participent aux affrontements, qui attisent les violences. Juste, est-ce que c'est une affirmation crédible ou pas, selon vous ?
Alors, il faut savoir voilà, que la presse nationale au Pérou, et en particulier à Lima, elle est connectée aux intérêts de l'élite économique nationale qui est opposée à Castillo. Et dans ce contexte, voilà, une stratégie de la droite péruvienne traditionnelle qui est reprise par les médias, c'est de qualifier de terroristes les personnes qui manifestent, surtout si elles sont pauvres, si elles sont issues d'une zone rurale ou qu'elles sont amérindiennes. Et en particulier, voilà, si elles portent des revendications de gauche. Et aujourd'hui, bon, disons qu'il existe des réminiscences de cette guérilla au Pérou sous des formes diverses et variées, comme par exemple au travers du narcotrafic ou d'une organisation appelée le Movadef, qui milite entre autres pour une amnistie des terroristes du Sentier Lumineux. Pour terminer, ce qui est certain, c'est que ces organisations n'ont pas une place centrale
dans les manifestations
actuelles.
On l'a bien compris. Ouais. Merci beaucoup. Merci Romane Perdomo, doctorant en sciences politiques.
Haïti, on n'en parle jamais assez. Le pays le plus pauvre et abandonné des Amériques. Un accord politique entre le gouvernement provisoire et certains partis politiques est contesté par une partie de la société. Par ailleurs, d'après RFI, cette année encore, Noël n'aura pas eu la saveur des retrouvailles et de la fête, conséquence de la conjoncture socio-économique et sécuritaire du pays.
En Haïti, l'accord politique signé la semaine dernière entre le gouvernement provisoire et certains partis politiques et acteurs de la société civile, cet accord donc est loin de faire l'unanimité.
Oui, comme il fallait s'y attendre, Marion, l'opposition, dont les membres de l'accord concurrent, dit de Montana, accuse le Premier ministre Ariel Henry et les signataires d'un simple partage de pouvoir au détriment de la population défavorisée, au lieu de chercher un compromis véritablement inclusif. Rapporte le National.
Le Nouvelliste, de son côté, est visiblement exaspéré.
L'opposition comme le gouvernement, les hommes d'esprit et d'argent, les gens d'église comme les acteurs de la société civile, s'arrangent avec le pire pour ne s'entendre sur rien depuis des mois, s'insurge notre confrère Franz Duval. Le temps passe, les conditions générales se détériorent et la communauté internationale, armée de ses sanctions, joue au faiseur de roi. Elle impose, suggère, tolère, écarte qui elle veut. Ces dernières années, les pires dirigeants haïtiens ont eu le soutien de toutes les ambassades accréditées en Haïti et de toutes les missions des Nations Unies déployées dans le pays, rappelle l'éditorialiste qui estime que changer de logiciel passe par la reconnaissance des erreurs du passé. Et Franz Duval de conclure, tout va si mal en Haïti qu'il reste beaucoup de place pour le beau, le bon et le bien. Soyons chacun ouvrier de la bonne cause en 2023 pour sortir le pays et chacun de nous du cercle de l'échec.
C'est encore un Noël à minima que s'apprêtent à vivre les Haïtiens, les fêtes de fin d'année, otages du contexte social et sécuritaire, mais au Gonaïves, dans le Nord, malgré tout, quelques événements sont organisés. Reportage Ronald Paul.
Dans la bibliothèque de l'Alliance française des Gonaïves, l'ambiance est à la fête. C'est d'abord la voix et la musique du défunt Michael Benjamin, dit Mika Ben, l'artiste haïtien qui s'était éteint en direct sur la scène parisienne Accor Arena le 15 octobre dernier, qui nous accueille. Au fond de la salle, sous la direction de Myline Azor, la médiathécaire de l'Alliance, un groupe d'enfants se tiennent debout et chantent devant un écran sur lequel est projetée la vidéo sous-titrée de la chanson qu'ils devront entonner ce 24 décembre pour la première édition de la parade de Noël.
Ils devront descendre dans les rues pour faire une tournée de l'Alliance française. Ils passeront devant la cathédrale pour arriver devant Madame Collot avant de retourner à l'Alliance. C'est une activité où les enfants chanteront et danseront dans les rues. Ce sera une parade pour la paix. C'est une activité qui aura toute son importance parce que nous sortons à peine d'une crise où les enfants sont restés à la maison et où ils ont été stressés également.
Avec cette activité, l'Alliance française des Gonaïves espère non seulement donner une ambiance festive aux enfants, mais surtout envoyer un message de paix à toute la communauté haïtienne.
Ce sera une parade de Noël pour la paix où les enfants seront munis de pancartes sur lesquelles seront inscrits paix, amour, joie, santé, prospérité, etc. Nous inviterons toute la population à vivre dans l'amour, la gaieté, le vivre ensemble, parce que nous constatons qu'il y a des émeutes partout.
Et c'est ce qui gâche depuis bientôt 2 ans la fête de Noël dans le pays, notamment dans la cité de l'Indépendance.
Il est 18h, nous sommes au village des dates où a lieu les 22, 23 et 24 décembre le marché de Noël. Une foire socio-économique qui accueille depuis 2016 une cinquantaine d'entrepreneurs et d'artisans qui viendront exposer leurs produits. Cet événement entrepreneurial, qui en est à sa 4e édition cette année, reprend après 2 ans d'absence en raison de la situation sécuritaire. Mais cette année, pas question d'abandonner, affirme Gina Gentil, la coordonnatrice.
Avec le temps, on a appris que les hauts et les bas, c'est monnaie courante en Haïti. Donc, si vous allez vous baser surtout sur pays loc, je ne peux pas faire et je ne peux rien faire, donc on va laisser le pays. On va laisser le pays se détruire seul ou on va laisser Haïti, c'est love it or leave it. Vous n'allez jamais trouver un moment opportun. Le moment opportun, c'est vous qui devez le créer. Donc, c'est pour ça qu'on a tenté cette année. D'ailleurs, on a lancé le processus d'inscription. En une semaine, c'était déjà bouclé.
Retour à l'Alliance française. Même si l'institution essaie tant bien que mal de mettre quelques activités sur pied pour ranimer l'ambiance de la Noël au Gonaïve, le professeur Berlins Beland-Kersin est plutôt nostalgique. Pour lui, dans ce contexte socio-économique difficile, Noël est une fête sans fête.
Je dis une fête sans fête parce que moi, quand j'étais enfant, c'est vrai, on peut qualifier de Noël de mythe occidental. Nous, en Haïti, on nous a appris à fêter cette date, la Noël. On avait l'habitude de faire plein de choses, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est juste la date. C'est pour moi quelque chose qui est vide de sens maintenant.
Comme partout dans le monde, en Haïti, Noël est un moment de partage et surtout de réunion familiale. Des moments de retrouvailles que Charles Jean-François, 85 ans, n'a pas goûté depuis bientôt 2 ans.
À chaque mois de décembre, j'irai à Port-au-Prince aller voir mes enfants, passer la Noël avec mes enfants. Mais au point de vue de sécurité qui se propage dans le pays, cette année, je passe la Noël ici dans ma ville natale.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.